Et un privilège à être ici devant le matin, c'est de pouvoir vous regarder lorsque vous chantez, lorsque vous priez. Et là, ce matin, de pouvoir voir ce que vous ressentez, ce que vos visages expriment, c'est réconfortant de voir apparemment que le Seigneur est en train de parler dans les cœurs, est en train de travailler, et que de votre côté, vous aussi, vous êtes en train d'exprimer votre joie au Seigneur. Le texte que j'aimerais lire ce matin est un tout petit peu plus long que d'habitude. Alors je vais me mettre ici pour le lire avec vous et il est trop petit encore, mais ça fait rien. Je vous invite à écouter ce texte qui est tiré du premier livre des Rois au chapitre 6 et c'est l'histoire de Salomon qui bâtit le temple. Et ce fut 415 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël durant le mois de Ziv, qui est le deuxième mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple et de 5 mètres de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour et l'étage inférieur était large de 2,5 mètres, celui du milieu de 3 mètres et le troisième de 3,5 mètres. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple à l'extérieur afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'ensemble des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna 2,5 mètres de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du temple et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. « Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrait le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Et je vais poursuivre en fait pour aller à un dernier texte que je voudrais lire, qui est tiré ici de la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, et où il est dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, dit l'apôtre Paul, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Quelqu'un a détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors la semaine dernière, Philippe a apporté une conclusion en fait à la série que nous avions faite en tant qu'anciens, où on revenait un petit peu sur des choses fondamentales de notre foi, pour nous les rappeler. Et la façon dont Philippe a conclu cette série, c'est de dire en fait, puisque tout se retrouve en Jésus-Christ, il y a une double image qui est utilisée dans l'Écriture à propos de Jésus-Christ, qui est d'une part, Jésus peut être perçu comme étant la pierre sur laquelle le reste de l'édifice va être construit, c'est-à-dire le temple que nous représentons. Ou alors il y a une autre image de Jésus, la pierre, qui est ce qu'on a appelé, ce qui est souvent traduit, la pierre d'achoppement, c'est-à-dire cet obstacle, cette raison qui crée dans un sens un scandale dans la tête d'une personne et qui lui fait dans un sens se détourner et dire « non, je n'en veux pas ». Et c'est cette image de la construction ce matin que j'aimerais poursuivre avec vous. Parce que si Jésus est d'abord et avant tout une pierre, ce qu'on appelle la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre de fondement sur laquelle va être édifié tout le temple, nous avons plusieurs recommandations, dont celle ici de l'apôtre Paul, sur qu'est-ce que nous faisons après que cette pierre a été posée. Et ça, c'est une chose importante à se souvenir, c'est que nous, en tant qu'évangéliques qui sommes tellement prompts à prêcher la repentance, la conversion, le salut, c'est que quelquefois nous nous arrêtons là, quand en fait, la conversion est un point de départ. La conversion est en fait ce moment où on reconnaît en Jésus qu'il va être la pierre angulaire de notre vie, mais il reste encore tout un chantier qui va suivre. Et c'est là où, dans un sens, nous avons un certain nombre de recommandations qui nous viennent dans l'Écriture, et peut-être où l'histoire de Salomon illustre mieux que toute autre chose le défi qui est devant nous, mais aussi ce que le Seigneur attend de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce long texte que j'ai lu, en fait que j'ai coupé du premier livre des Rois au chapitre 6, c'est qu'en plein milieu de ce texte, il y a un moment le Seigneur qui arrive et qui dit « Salomon, te voilà en train de construire ce temple. » Alors au début, on a toute une description de Salomon qui est en train de construire un magnifique temple. Il faut faire un petit peu preuve d'imagination pour bien voir à quoi ça représente, ce que ça représente. Et puis à un moment, le Seigneur intervient et dit « Tiens, te voilà en train de construire ce temple. » Et le Seigneur regarde un petit peu la chose de l'extérieur. Et il lui dit « Si tu obéis à mes commandements, je tiendrai ma promesse envers ton père David et j'habiterai parmi tous les enfants d'Israël. » Or, c'était là le rêve de Salomon. C'était d'avoir un lieu où Dieu pouvait habiter et un lieu qui signifierait aussi que la présence de Dieu était toujours là parmi son peuple. C'était l'aspiration profonde qu'avait Salomon pour le peuple. C'est que Dieu puisse avoir un lieu où sa présence serait manifeste et où le peuple serait rassuré que Dieu était toujours présent parmi lui. Et ce qui est intéressant, et je ne dirais pas que c'était nécessairement l'intention de l'auteur, quoique, c'est que toute la partie qui va suivre ce verset va concerner toute une autre partie du temple, qui est en fait la partie intérieure du temple. Dans la première partie de ce chapitre, tous ces versets qui vont du verset 1 au chapitre 10, on a un petit peu la description de l'infrastructure et de la structure extérieure du temple. Et puis le Seigneur, à un moment, vient, parle à Salomon, et après, tout ce qu'on découvre, c'est comment Salomon va utiliser des matériaux extrêmement précieux pour décorer l'intérieur. Comment est-ce qu'il va en fait créer un lieu saint et un lieu très saint? Et on a tout un descriptif après de ce qui se passe réellement à l'intérieur du temple, jusque dans le lieu très saint qui était le lieu où le Seigneur résidait. Et j'aimerais que vous restiez avec cette image ce matin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie? C'est de pouvoir aller au-delà de ce qui est extérieur dans notre vie, parce que ce que le Seigneur recherche vraiment, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là où l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous met en garde contre la même chose. C'est qu'il dit, vous avez un fondement, mais vous pouvez encore bâtir des choses dessus qui ont des valeurs différentes. Et ici, il y a deux éléments dans ce texte qui font allusion à cela. C'est déjà la question des matériaux, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des matériaux extrêmement précieux, comme vous pouvez utiliser du bois, du foin et de la paille ou je ne sais pas quoi. Et l'édifice va être très différent, en finale. Mais l'histoire de Salomon est très parlante, très très parlante à ce sujet. Parce que souvenir que vous avez peut-être de Salomon, c'est quand même, ça a été le roi qui a régné durant la période la plus faste de toute l'histoire d'Israël. Faste dans le sens où il est dit à un moment que même l'argent était tellement commun qu'il n'avait presque aucune valeur, parce qu'il y avait tellement d'or. L'argent, ne parlons même pas du bronze, parce que le bronze, on utilisait ça dans les soubassements, mais je veux dire, l'argent était tellement commun qu'il n'avait plus de valeur. C'était l'or qui primait. Salomon régnait en fait sur un territoire qui était le plus grand territoire qu'Israël n'avait jamais eu, et régnait dans un moment de paix extraordinaire. Salomon a quand même la réputation certainement le sage, le plus sage de l'époque et de toute cette zone géographique, au point où d'autres rois et reines venaient le voir pour le questionner, pour l'écouter. Il y avait, c'était une période, je veux dire, absolument extraordinaire dans l'histoire d'Israël, mais aussi extraordinaire pour un roi d'être riche à ce point-là et d'être intelligent et sage à ce point-là. Et pourtant, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament et on se dit, tiens, le Nouveau Testament utilise tellement de fois des allusions à des personnages de l'Ancien Testament. Que dit le Nouveau Testament à propos de Salomon ? Déjà, pas grand-chose. Pas grand-chose à propos de Salomon. On parle d'autres rois, en particulier de David, et on y reviendra. Mais il y a deux choses qui sont dites à propos de Salomon. On parle de sa splendeur. À un moment, Jésus parle de sa splendeur. Mais c'est dans un contexte tout à fait particulier. C'est là où Jésus, dans un sens, encourage les croyants à ne pas laisser les soucis matériels entraver la recherche du royaume de Dieu. Et c'est là où il dit, même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été vêtu comme le lys des champs, n'a pas été nourri comme le moineau. Et Jésus regarde toute la splendeur, tout le faste, tout le luxe, toute la richesse de la période de Salomon, comme disant, vous savez, ce n'est pas encore tout à fait comparable à ce que Dieu vous promet. Et il y a un deuxième texte tout proche de celui-là, où Jésus il dit, faites attention de ne pas amasser vos trésors ici sur terre, mais d'amasser vos trésors dans le ciel. Et vlan le deuxième vent pour Salomon. Ce qui compte, c'est d'amasser vos richesses dans le ciel et non pas ici sur terre. Et juste avant, on avait cette allusion à Salomon. Lui qui devait être certainement le modèle des businessmen de l'époque. Des présidents et des gouvernants qui voulaient que l'économie soit stable, belle. Des généraux et des maréchaux qui voulait absolument que règne la paix dans toute la région. Et après ce deuxième texte sur s'amasser des richesses dans le ciel, il y a un autre texte qui arrive rapidement derrière, qui est celui de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et où ce jeune homme riche arrive et il dit, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et vlan le troisième vent pour Salomon. Voilà la première utilisation de comment le Nouveau Testament utilise toute la richesse et toute la gloire de Salomon. Et puis la deuxième, c'est à propos de son intelligence et de sa sagesse. Et là où le Seigneur, à un moment, dit, vous savez, vers la fin, dans la fin des temps, la reine de Saba, elle se lèvera et elle participera au jugement. Elle, cette reine de Saba qui était venue voir Salomon pour écouter toutes les choses intelligentes qu'il avait à dire. Et Jésus dit, vous savez, il y a ici, donc en lui-même, bien plus que ce qu'il y avait en Salomon. Et vlant le quatrième vent pour Salomon. Et on pourrait continuer en parlant de la sagesse et à quel point l'apôtre Paul met en garde contre la sagesse des hommes. Et où la sagesse des hommes n'est pas quelque chose qui est nécessairement bien vu dans le Nouveau Testament et en Jésus-Christ. Ce à quoi nous sommes invités, c'est à une sagesse qui nous est révélée d'en haut, non pas celle qui nous est montée au cœur, comme celle qui venait chez Salomon. Et là aussi, voilà à peu près les échos qu'on a dans le Nouveau Testament de tout ce que Salomon est ou a été. Et ce qu'il y a, c'est que, dans un sens, la Bible nous donne l'explication de pourquoi. Pourquoi Salomon n'a pas réussi dans un sens? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été le modèle qui a été proposé à tous les croyants de suivre? Et c'est là où, à l'évidence, ce qu'on découvre même déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois et dans le livre des Chroniques, c'est que l'intégrité du cœur de Salomon n'était pas tout à fait ce qu'il fallait et c'était vachement discutable. Et au chapitre 11 du premier livre des Rois, il y a une des choses qui nous est dite, c'est que Salomon, lui, dans tout le faste, dans tout le luxe, dans toute la puissance qu'il avait, il épousait des femmes à droite et à gauche. Et entre autres, il épousait des femmes qui venaient d'autres horizons, d'autres pays, avec d'autres dieux, avec d'autres philosophies. Et Salomon trouvait ça très intéressant. Et il a commencé à essayer de digérer tout ça et d'en faire quelque chose à peu près intégré. Et il laissait ses influences entrer en lui. Au point où en Israël, on s'est retrouvé où il y avait des lieux d'adoration avec toutes sortes de dieux différents. Et là, le cœur de Salomon, assoiffé de sagesse, de connaissance et tout ça, était dans un sens ouvert à « raconte-moi un petit peu, oui, et puis j'en fais un mélange, j'en tire quelque chose de bon. » Et en même temps que vous avez Salomon qui construit le plus bel édifice pour le Seigneur, il est en train en même temps de se laisser pénétrer, travailler par des influences qui viennent d'ailleurs, et entre autres ce qui était dit à l'époque, « ne vous mariez pas avec des étrangers, non pas parce qu'ils étaient en eux-mêmes impurs ni quoi que ce soit, mais leur culture, leur religion n'était pas ce que le Seigneur voulait. Et donc, il dit, gardez cette distance. Mais Salomon, lui, non, il trouvait ça fascinant. Et puis le luxe, et toutes ces femmes. Et il laissait peu à peu cela l'influencer. Et c'est là où on pourrait aussi se demander, lorsqu'on lit le livre de l'Ecclésiaste qui est attribué à Salomon, où on voit un petit peu de cynisme, un petit peu de désillusion dans le livre de l'Ecclésiaste, où il dit « j'ai regardé, j'ai contemplé tout ce qui se faisait sous le soleil, ouais, et j'ai rien trouvé de vraiment extraordinaire. » Et on sent chez Salomon que, en dépit de sa richesse, en dépit de son savoir, en dépit de sa sagesse, il restait sur sa faim et il n'était pas arrivé au fin fond de ce à quoi il aspirait, qui était que le Seigneur habite en lui et habite parmi les Israélites. Et là, dans un sens, on pourrait dire que tout simplement, contrairement à ce qu'il a fait pour le temple du Seigneur, où il s'est focalisé sur l'intérieur du temple pour créer ce faste, cette beauté pour que le Seigneur y règne et ce lieu très saint, là où était l'Arche de l'Alliance, là où était la loi de l'Éternel. Il a fait ça pour le temple, mais il n'a pas fait ça pour lui-même. Salomon s'est arrêté dans sa propre vie à bâtir l'extérieur de sa vie, tout ce qui était apparat, mais à un moment ou à un autre, il n'a pas voulu aller plus loin et se dire « comment est-ce que je bâtis l'intérieur de ma propre vie ?» Et c'est là où Salomon reste parmi tous les rois de l'Ancien Testament, celui qui, dans un sens, avait le plus d'opportunités, le plus de capacités pour faire quelque chose, et il s'est arrêté trop tôt. Alors bien sûr, il n'est pas condamné, il n'est pas décrié comme le pire des rois, ni quoi que ce soit. Mais on reste tous, en lisant l'histoire de Salomon et le Seigneur lui-même, sur notre faim et cette déception. Que Salomon n'ait pas pu aller plus loin pour utiliser bien plus encore que son père cette sagesse qu'il avait reçue pour découvrir ce que le Seigneur voulait pour lui. Et dans la première épître aux Corinthiens, me semble-t-il, mais on pourrait reprendre dans d'autres épîtres aussi, nous sommes invités à exactement la même chose. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que vous bâtissez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et en fait, ce que j'aimerais dire ce matin, et peut-être nous parler plus loin, c'est que, en fait, ce que Dieu cherche vraiment, ce qu'il attendait de Salomon, c'est en fait ce qu'il a trouvé dans le père de Salomon, le roi David. Et ce qu'il y a de façon extrêmement importante lorsque vous relisez le livre des rois, le livre des chroniques et même le livre des Samuel, c'est que on remarque que le personnage de David est vraiment un personnage très différent de son beau-père Saül et de son fils Salomon. Et on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que le roi David, dans un sens, est ce personnage qui va être dans un sens le type de Jésus-Christ, c'est celui dont on va parler jusque dans le Nouveau Testament, c'est celui qu'on révère encore et qu'on trouve absolument extraordinaire comme personnage. Mais pourquoi ? Pourquoi et en quoi est-ce que David était différent d'un Saül et était différent d'un Salomon ? Est-ce que c'était parce que David avait tué 10 000 Philistins quand Saül avait tué que 1 000 ? Est-ce que c'était parce que David avait tué Goliath avec une fronde et que Saül n'avait pas le cran de descendre pour le combattre ? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est parce que David était un homme beaucoup plus intègre et beaucoup plus meilleur dans ses comportements que Saül et David ? Mais souvenez-vous, Dieu ne veut pas que David construise le temple parce que David a du sang aux mains. C'est un guerrier. David est un menteur. David contrevient à la loi de Dieu. David couche avec la femme de son voisin. Et pour couvrir tout ça, il le tue. Il n'y a pas ça dans l'histoire de Saül. Il n'y a pas ça dans l'histoire de Salomon. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y avait chez David que le Seigneur aimait ? Les textes sont relativement clairs. Et dès le moment où Dieu appelle le prophète Samuel à aller oindre David, Samuel ne sait pas qui il va oindre, mais Dieu le conduit, il lui dit, va dans cette famille-là. Et là, il y a tous les frères de David. Il nous est dit à un moment, Samuel, lorsqu'il vit le frère aîné de David, Éliab, il dit en son cœur, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est cette phrase-là qui va revenir plusieurs fois dans les différents livres de l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, qui fait toute la différence entre un David, un Saül et un Salomon. C'est que dans le fond du cœur de David, il y avait cette ouverture, cette prédisposition à aller vers l'Éternel et à laisser l'Éternel rentrer jusqu'au fin fond de lui-même. Lorsque David commet son péché ou son adultère avec Bathsheba, il pleure et il prie. Et on a parmi les textes les plus beaux des psaumes, là où David invoque le pardon de l'Éternel. Où il ouvre son cœur et il s'étale et il reconnaît son péché. Il n'y a rien dans le cœur de David qui est caché à ce moment-là. Et tout ce que le cœur de David cherche, c'est tout simplement que le Seigneur manifeste sa bonté et sa grâce envers lui, parce qu'il n'y a rien dans la vie de David qui peut effacer son péché si ce n'est la bonté et le pardon de l'Éternel. Ça, c'est le cœur que le Seigneur recherchait. Et on peut tous dire, mais il a commis le péché avec Bathsheba, il a tué Uri. Oui, mais dans ces circonstances, où peut-être l'ensemble des hommes auraient fui et auraient gardé une espèce de faux semblant, auraient essayé de cacher les choses et tout ça, dès que le prophète Nathan vient lui dire « Tu as péché contre l'Éternel », David n'a rien d'autre à faire, si ce n'est de tout simplement se mettre devant l'Éternel, ouvrir son cœur, dire « J'ai péché, pardonne-moi ». Et ça, c'est la trempe de bonhomme qu'on ne trouve ni chez Saül, ni chez Salomon. Mais c'est pour ça aussi, dans un sens, qu'il a enfreint la loi de l'Éternel lorsqu'il est allé manger les pains consacrés qui étaient dans le temple. Parce qu'il savait qu'au-delà de simplement la règle, il y avait quelque chose de plus profond encore qui était l'amour et le respect de son prochain et de nourrir ses hommes. Et il savait et il pensait que Dieu allait au-delà de simplement les formes pour dire vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important. Et David s'est dit, moi, consacré ou pas consacré, je prends ces pains, mes hommes ont faim. Parce qu'il était authentique, il était vrai, son cœur était bien disposé. Mais il suffit de regarder tous les psaumes, de regarder tout ce que écrire qui exprime son cœur et qui exprime la louange qu'il ressentait lorsqu'il contemplait les œuvres de l'Éternel. Il n'y a qu'un cœur entièrement dédié à l'Éternel, entièrement ouvert, qui peut être la fontaine d'autant de belles paroles. Mais il y a aussi qu'un cœur entier, qui peut aller se présenter devant Goliath et il dit, toi Goliath, tout grand que tu es, tu viens avec moi le javelot, la lance, etc., etc. Mais tu sais quoi ? Moi, je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Ma vie ou pas ma vie, moi, je viens parce que ce qui compte dans ma vie, avant tout, c'est l'Éternel. Que je meure ou que je ne meure pas, ça ne fait rien. Son cœur était entier. Entier au point où il peut aussi questionner l'Éternel dans les psaumes. Et vous avez des psaumes où tout simplement ça se termine en question ou en interrogation en disant à l'Éternel, mais qu'est-ce que tu fais ? Et prenez le psaume 44 par exemple. Et il dit, mais Seigneur, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. C'est à cause de toi qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Allez Seigneur, lève-toi. Pourquoi dors-tu Seigneur ? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? Quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Et le psaume s'arrête là. Il ne donne même pas la parole à l'Éternel pour lui répondre. On n'a même pas une belle parole à la fin qui dit, mais en fait David il s'est trompé. C'est parce que le cœur de David était entier à l'Éternel qu'il pouvait se présenter devant l'Éternel et débattre avec lui à ce point-là. Parce qu'il voulait savoir. Parce qu'il vivait entièrement dépendant de l'Éternel. Et c'est lui qui chante ces expressions que nous chantons souvent. Sonde-moi et connais mon cœur au Seigneur. Et vous n'avez jamais pensé à un moment que les seules fois où vous prononcez ou je prononce ces paroles, c'est lorsque je les chante parce qu'elles sont sur l'écran ? Combien d'entre nous les disons tous les jours ? Seigneur, entre dans mon cœur, sonde-moi. Toi, va creuser, va jusqu'au fin fond de moi. Dis-moi ce qu'il y a là et transforme mon cœur. Ça, c'est la trempe de David et qui fait que David n'est pas un Saül et n'est pas un Salomon. Parce que David était constamment focalisé sur l'intérieur de sa propre vie et sur ce que le Seigneur était en train de bâtir en lui. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur quelques textes dans le Nouveau Testament où Jésus, en fait, poursuit exactement la même chose. Lorsqu'il est venu, c'est tout ce qu'il veut faire, c'est arriver au fin fond du cœur des personnes qui l'entourent. Et d'abord et avant tout, il aura une critique envers les pharisiens en leur disant « Mais écoutez, vous les pharisiens, tout ce que vous faites, vous nettoyez l'extérieur, puis vous oubliez tout ce qui est à l'intérieur, qui est sale et pas beau, c'est de la méchanceté qui est dans votre cœur. Mais vous arrêtez à simplement nettoyer l'extérieur. » Mais de façon plus positive encore, pensez un petit peu à ces textes ou relisez-les. Lorsque Jésus rencontre, oui, le jeune homme riche, son intention n'était pas tout simplement de lui montrer son mal. Le Seigneur voulait vraiment arriver au fin fond du cœur de ce jeune homme riche afin qu'il puisse voir ce jeune homme riche de cœur à cœur. Souvenez-vous encore de Pierre, après qu'il l'a renié et que Jésus est ressuscité, « M'aimes-tu, Pierre ?» Là aussi, ce n'est pas que le Seigneur voulait absolument, devant tout le monde, l'embarrasser ni quoi que ce soit. Mais c'est que le Seigneur voulait rentrer tout simplement dans son cœur et rétablir cette relation au plus profond de qui était Pierre. La femme samaritaine, c'est exactement la même chose. Par touches successives, il va arriver à lui faire baisser sa garde et tout d'un coup rentrer dans sa vie là et qu'elle puisse s'ouvrir tout d'un coup et connaître la liberté en Jésus-Christ. Et nous avons de nombreux autres textes qui disent cela aussi. Et Jésus est constamment en train de nous inviter à aller au-delà des apparences, au-delà de ce que nous faisons à l'extérieur, pour dire, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que tu as dans le cœur. Et si vous reprenez le sermon sur la montagne où Jésus dit, vous avez appris que, mais moi je vous dis que, le moi je vous dis que, ce n'est pas simplement une autre loi que le Seigneur donne. C'est plutôt que le Seigneur va derrière les apparences, derrière l'extérieur, pour toucher ce qui est véritablement l'intérieur de l'homme. Chers amis, nous avons fait un rappel durant tous ces mois de ce qui est le fondement de notre foi. Mais maintenant, nous le savons. Mais maintenant, nous passons dans une autre phase qui est de se poser la question, qu'allons-nous faire de ce fondement? Qu'allons-nous bâtir sur ce fondement? Et la question, j'espère, est relativement simple. Ou la réponse, pardon, est relativement simple. C'est que le Seigneur souhaite aller jusqu'au fin fond de notre cœur. Ça lui prendra le temps que ça prendra. Il utilisera les moyens qu'il voudra. Mais tout ce que le Seigneur aime, c'est notre cœur. Afin que notre cœur soit comme celui de David, intègre, entier. Et même lorsqu'il y a des dérapages, mais que dans ces dérapages, nous puissions revenir encore dans cette entièreté au Seigneur. Et de façon ironique ou intéressante, on pourrait dire, il y a un texte dans le livre des Proverbes qui est attribué à Salomon. Et Salomon écrit à son fils et il lui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Ironique que ce soit Salomon qui écrit cela. Mais en même temps, peut-être quelqu'un qui, en regardant sa propre vie, s'est rendu compte à quel point il avait probablement loupé l'essentiel. Je vous invite à quelques instants de prière en silence. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous montre ce que tu cherches, Seigneur, qui nous montre que tu veux nous voir cœur à cœur. Et Seigneur, je voudrais te demander ce matin que chacun d'entre nous puisse ouvrir son cœur. Nous avons peut-être des blessures, nous avons peut-être des choses dont nous ne sommes pas fiers. Nous pensons peut-être même inconsciemment que nous pouvons peut-être te cacher des choses. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas résister et à savoir que si tu le fais, Seigneur, ce n'est pas pour nous embarrasser ou nous faire du tort, mais au contraire, Seigneur, parce que tu veux nous élever et nous faire connaître cette communion que tu avais avec le roi David. Seigneur, notre Dieu, nous te prions que dans les semaines et les mois qui viennent, ta parole, Seigneur, puisse aller au-delà encore de ce que nous avons à l'extérieur, de nos comportements, de ce que nous pratiquons tous les jours et qui nous fait croire peut-être que nous sommes des gens bien. Mais Seigneur, toi tu veux encore aller au-delà pour savoir qu'est-ce qui nous motive et de quelle trempe nous sommes. C'est entre Dieu, c'est avec toute confiance que nous nous ouvrons à toi, parce que tu es bon, parce que tu es un Dieu qui fait grâce et parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous assister et nous transformer à l'image de ton Fils. Seigneur Dieu, nous te glorifions et nous te louons pour cela. Au nom de Jésus, amen. Avant de laisser la parole à Philippe pour les annonces, plusieurs d'entre vous avaient reçu au cours de cette semaine des informations qui nous sont venues de l'organisation Portes Ouvertes à propos de ce qui se passe en Syrie. Bien sûr, ce n'est pas nouveau ce qui se passe en Syrie. Mais ce qui se passe en Syrie est en train d'arriver à un point critique, non seulement sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan tout simplement de l'Église. L'Église qui est en train de souffrir énormément à cause des événements qui se passent là-bas. Et Portes Ouvertes a invité en fait tous les chrétiens de France et puis dans le monde aussi à une journée de prière. Cette journée de prière était hier, mais c'était une journée de prière où on s'associait avec les chrétiens de Syrie qui, eux-mêmes, toute la journée hier, se sont rassemblés, quelle que soit leur dénomination, leur origine ou quoi que ce soit, pour prier et pour jeûner pour la situation qui se passe là-bas. Et au lieu de continuer à vous donner des informations, on va peut-être vous passer le petit film que Portes Ouvertes nous a envoyé et qui vous donnera quelques informations. Après quoi, je demanderai peut-être à deux ou trois personnes
de
bien vouloir prier en notre nom.
Par les chrétiens syriens est difficile à imaginer. La situation empire chaque jour et de plus en plus de personnes sont tuées. Nous remercions Dieu car il fortifie puissamment l'Église pour qu'elle tienne ferme. Les chrétiens continuent à croire en la bonté de Dieu et à sa souveraineté. En plein ténèbres, nous pouvons voir de la lumière et de bonnes nouvelles. Cela encourage l'Église. Nous sommes encouragés de voir autant de personnes devenir chrétiennes. L'Église se tient dans la prière et est de plus en plus unie. Nous sommes heureux que les églises du monde entier nous soutiennent et prient pour nous. Tenez bon avec nous. Continuez à prier pour que l'Église garde cette foi et cette vision. Dieu est en train d'accomplir son plan. Le plus difficile est de réaliser que depuis 2 ans, nous n'avons vu aucun signe positif. La situation ne fait qu'empirer. Nous voulons croire que le Seigneur peut changer les choses et utiliser l'Église à ce moment précis de l'histoire en Syrie pour avoir un impact éternel dans ce pays, dans la vie des gens et dans les églises. Nous sommes encouragés par votre soutien et vos prières. Continuons à mettre notre confiance en Dieu. Merci.
Dans des situations de crise ou de guerre comme ça, ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des réseaux qui se mettent en place pour soutenir les uns et les autres, les familles, les différentes religions. Et ce qui arrive, c'est que, par exemple, en Syrie, l'Église, elle, n'a pas toujours tous les réseaux qu'il faut pour arriver à créer une entraide. Et c'est là où l'Église en Syrie a besoin d'aide, de notre aide, pour cela aussi. Mais ce qui est formidable dans ce film et qui m'a frappé lorsque je l'ai regardé la première fois, c'est d'entendre à quel point l'Église regarde aussi cette crise comme étant une opportunité pour le royaume de Dieu et pour la propagation de sa parole. Il y a nombre d'exemples dans l'histoire où des moments de crise ont été des moments opportuns où le Seigneur a fait de grandes choses. Et il est magnifique d'entendre et de voir que des chrétiens ne cherchent pas simplement à se protéger eux-mêmes, mais à dire qu'est-ce qui va être l'œuvre du Seigneur durant cette crise. Alors ce que je voudrais, c'est peut-être demander à 2-3 personnes si, en notre nom, elles voudraient bien prier pour nos frères et sœurs en Syrie.
Bonjour à chacune et chacun. Je partage avec vous les annonces pour la semaine qui vient. Tout d'abord, lundi, pour les dames concernées, il y a Format P, ne l'oubliez pas. Sinon, lundi soir, la cellule de Préf 5 qui se retrouve chez Briand et Hélène à 20h30, donc à Thoiry. Mardi, les cellules, donc les 2 autres cellules, la cellule de Gex chez Jean-Paul et Lydie, cellule ensuite de Collonges, je sais pas, Collonges donc chez Pierre et Déborah. Ensuite, samedi, le groupe de jeunes. Dimanche, n'oubliez pas de venir un petit peu plus tôt. À 9h30, le café-thé, c'est toujours un moment très enrichissant de pouvoir partager ce temps ensemble avant le culte, et puis à 10h, le culte. Au fond de la salle, il y a les flyers qui sont déjà disponibles pour le club d'enfants qui aura lieu le dernier samedi de mai, le 25 mai. Sinon, des nouvelles des uns et des autres, des nouvelles de Madeleine. Madeleine a eu beaucoup de souffrances cette semaine, beaucoup de douleurs. Elle a été réhospitalisée à Argonnet, donc prions pour elle, pensons à elle, pensons aussi à Pierrot, qui se retrouve aussi seul à la maison. Et vraiment, remettons-la dans nos prières. Ah, bon, ok, c'est égal. De toute façon, Pierrot me disait qu'elle devrait rentrer assez vite. Donc, si toutefois quelqu'un voulait faire une visite, ben, contactez Pierrot pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, où est-ce qu'elle est exactement aussi. Pensons aussi à Annelise. C'est vrai, on veut toujours continuer à penser à toi, que Dieu te renouvelle. S'il n'y a pas d'autres annonces oubliées, je vous invite à lire deux versets dans la fin de l'Épître aux Hébreux qui veulent aussi nous encourager dans ce que nous vivons. Hébreux 13, les versets 20 et 21. « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. » Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.